Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Le journal américain New York Times a classé le parc de Virunga, situé dans l'est de la RDC, 19e sur la liste de 52 meilleures destinations touristiques au monde en 2016. Certains observateurs estiment que le Congo, qui n'était plus une destination touristique de renom à cause des différentes guerres et rébellions, devrait capitaliser ses acquis positifs pour développer le secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Comment y parvenir selon vous? À l'adresse pa@radiocapu.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Julie Pelta Bongondette, Standard, Piro et la Mégie et sa réalisation, Dieudonné Nyangasa, assure la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios M. Elvis Moukiri Ouabachara, ministre du Tourisme. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo.
Voilà, d'entrée des jeux, nous avons tout suivi les discours que vous avez prononcés, de dire les déclarations lorsque vous annoncez la bonne nouvelle, c'est-à-dire aujourd'hui, le parc de Virunga est compté parmi les meilleures destinations, parmi les 20 d'ailleurs, meilleures destinations touristiques. Alors, vous l'avez dit, ces classements demeurent aux yeux de nombreux analystes comme un indicateur de tels détails pour les efforts de redynamisation du tourisme à RDC, entrepris depuis votre avènement d'ailleurs à la tête du secteur touristique, car beaucoup de choses ont fondamentalement changé. Lesquelles?
D'abord, la première décision du président de la République de faire du tourisme un secteur qui est conduit par un ministère autonome, parce que comme vous le savez, le ministère du tourisme était empris dans les ministères comme l'environnement, la culture et art. Et depuis le 7 décembre de 2014, le président de la République a décidé de faire de ce du secteur touristique un élément important de la croissance économique, parce que, comme vous le savez, le tourisme, c'est la première activité économique du monde. Et en nous confiant ce ministère, nous avons eu des directives du Premier ministre en ce qui concerne les défis qu'il fallait relever. Le premier défi, c'est l'image de la République. L'image de la RDC, sur le plan international, c'était une image, et c'est une image sur laquelle nous devons longtemps travailler, parce que si l'image d'un pays, si l'image d'une destination n'est pas bonne, il est clair qu'on ne peut pas développer le tourisme. Et pour en faire une destination attractive, il y a bien sûr une série de réformes qu'il fallait faire. D'abord, la réforme sur tout l'arsenal juridique du secteur du tourisme, en passant par l'hébergement, la restauration, parce que quand vous avez des sites, et nous avons le meilleur site au monde, ça c'est complètement reconnu, nous sommes un scandale de géologique, nous sommes un scandale de tout, et en tout cas nous sommes un scandale touristique. Mais si vous voulez promouvoir votre destination, vous devez avoir tout autour des services de qualité, en termes d'hébergement, en termes de restauration, mais aussi en termes des services d'accueil. Et donc, l'autre défi, c'est le visa, l'accès au visa, mais aussi l'accès sur le territoire national et la liberté de circuler à l'intérieur du territoire national. Le défi primordial, bien sûr, qui est fondamental, c'est le défi sécuritaire. Et à partir de 2013, à partir du moment où nos forces armées ont rétabli la paix, je crois, à partir de ce moment-là, il était absolument possible de développer, de promouvoir notre destination. Et au niveau, bien sûr, des acteurs, nous sommes en train de faire un effort pour que les services que nous allons offrir soient des services de très haute qualité. Et là-dessus, nous insistons sur la formation de six secrétaires au niveau de l'administration du tourisme, mais la formation des opérateurs privés aussi.
Alors, beaucoup d'observateurs partagent d'ailleurs vos propos lorsqu'ils confirment également que le secteur du tourisme est capable de lutter contre la pauvreté, de développer l'économie et de booster la croissance économique, comme vous venez de le dire, mais grâce aux recettes donc, que cela pourrait générer avec la différente gamme des produits du tourisme. Alors, si nous pouvons peut-être jeter un regard sur ces différentes gammes, il y a notamment l'éco-tourisme, il y a le tourisme culturel, il y a finalement le tourisme scolaire aussi, parce que vous venez d'ailleurs de lancer un vaste projet en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire en ce qui concerne le tourisme scolaire. Alors, les uns et les autres, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, nous faire une idée de différents défis, en tout cas pour élever les différentes étapes?
Je crois qu'il faut partir d'abord sur quelque chose qui existe. Ce qui existe, c'est le parc de Virunga, qui est le plus ancien parc d'Afrique, parce qu'il a été fondé en avril 1925, hein, dans notre siècle, si on peut le dire comme ça. Et donc, celui-là, il est connu, et donc la promotion sur le parc de Virunga était facile. Mais pour le reste, il faut absolument travailler sur des axes suivants. Le premier axe, c'est Kinshasa, qui a un fleuve majestueux, c'est le troisième fleuve du monde. Il est long, il est majestueux, et il faut arriver à y organiser des croisières. Nous avons sur Kinshasa aussi la fin de la route des caravanes, qu'il faut absolument faire connaître aux touristes étrangers. Le deuxième axe, c'est le Congo central. Le Congo central, c'est un patrimoine historique fabuleux. Comme vous le savez, c'est le premier état du Congo, Boma, où nous sommes en train, d'ailleurs il y a une équipe aujourd'hui qui va aller visiter, faire des évaluations pour la rénovation de la résidence du premier gouverneur du Congo, de l'indépendance du Congo. Et tout autour, vous avez tout le patrimoine historique lié au fonctionnement du premier état indépendant du Congo. Vous avez le premier camp militaire, vous avez le premier bureau du gouverneur, et puis vous remontez, vous avez le baobab, les salaires. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à revaloriser tout cela. Et quand vous allez à Moanda, vous avez la route de l'esclave. La route de l'esclave, c'est un projet fabuleux qui est soutenu également par tous les pays qui ont en partage l'océan Atlantique. Et nous avons eu deux routes de l'esclave, comme vous le savez. Nous avons eu à l'ouest, justement, à Boma, Sanfumu, cette partie-là, il faut la réhabiliter, de manière à permettre un tourisme de référence, un tourisme de souvenir. Comme vous le savez, il y a eu trois acteurs. Il y a eu ceux qui ont vendu les esclaves, il y a eu ceux qui ont été des victimes. Il y a eu aussi notre population, parce qu'il ne faut pas, vous leurrer, il y a eu, à un certain moment, et pendant longtemps, la complicité des chefs traditionnels. Et donc, ça peut permettre d'abord de reconstituer l'histoire, mais aussi de permettre à ces anciens esclavagistes d'avoir un tourisme de repentance. Vous avez, pour terminer avec cette route de l'esclave, vous l'avez aussi à l'est, avec Tipotipo, parce que c'est. Et nous sommes le seul pays à avoir eu deux routes de l'esclave sur la façade Atlantique et sur la façade Est. Ça, c'est le deuxième axe, en ce qui concerne le Congo central, mais il y a le Katanga. via le Katanga, il faut absolument régénérer.
Et un travail de fond du côté de l'Est également, parce que c'est l'Est qui offre quand même un visage touristique aussi à
Oui. Non, ce qui est intéressant avec la République démocratique du Congo, c'est que nous sommes un standard touristique et chaque coin de la République a un genre de site où a des attraits touristiques à offrir. C'est vrai, à l'Est, nous avons une concentration des parcs, donc des réserves naturelles, mais je viens de vous dire, au centre ici, à Kinshasa, c'est un autre type de tourisme, les croisières, les randonnées, le tourisme de luxe, parce qu'il y a le golf, il y a la pêche au Tiger Fish, le poisson tigre, comme on l'appelle, et beaucoup de Congolais ne savent pas que le record mondial se trouve ici, à Kinshasa. Le Tiger Fish que nous avons, c'est le Goliath, il pèse 70 kilos, dans 70 kilos. Donc, il y a un attrait touristique absolument formidable.
Et si vous le permettez, monsieur le ministre, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont déjà rejoints, mais j'aimerais bien, avant qu'ils puissent intervenir, il y a ces défis relatifs à la part allouée au niveau du budget national sur le tourisme, il y a le problème des gardes de parc, il y a ajouté à cela les premiers problèmes du braconnage, alors qui, se donne également rendez-vous au nombre de ces défis. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec les défis, et avec les budgets, la part allouée au tourisme, on fera réellement capitaliser ces acquis, c'est-à-dire les bons placements que nous avons aujourd'hui comme
notre stratégie n'est pas de s'appuyer uniquement sur le budget. Le gouvernement prépare un cadre, mais ce qui est extrêmement important pour réhabiliter les sites touristiques, pour les exploiter, nous comptons sur un partenariat public-privé. Parce que le budget de l'État n'est pas à même de réhabiliter tous les sites du Congo. Les sites du Congo, ils se comptent à peu près 3000 sites. Et si vous prenez le budget de l'État, il va être très difficile de le faire. Par contre, il est tout à fait possible de créer un cadre de partenariat avec des privés qui vont réhabiliter, exploiter et gérer les sites. C'est ça notre approche. Et si vous ne le savez pas, le Virunga est géré de cette façon-là. C'est un partenariat public-privé parce que la gestion de cette partie touristique est gérée par la Fondation Virunga.
Voilà, alors on va ouvrir les débats avec vous, les auditeurs. Alain Bolojour, vous êtes à Kinshasa. Patrick Zitti, vous êtes à Bukavu. Elle oublie ça, au Sénat de Parc de Virunga à Béni. 081 890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous entamons le deuxième quart d'heure de cette émission, de cette première heure de l'émission Parole aux auditeurs. Avec vous, Alain Bolojour. Vous avez le plaisir d'ailleurs de vivre ce débat. Alain Bolojour, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde et bonjour à son excellence.
Vous avez la parole Alain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit-on faire pour finalement capitaliser ces acquis?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais féliciter le ministre. Je sens qu'il a vraiment la maîtrise de son secteur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'encourageant. Moi j'ai dit, le secteur... du tourisme, c'est un secteur qui est vraiment rentable. Ça fait ses preuves dans d'autres pays. Ça a permis à ce que les Kenyans aujourd'hui soient vendus en termes d'image. Et aujourd'hui, qu'il y a cette publication des Américains, j'ai dit, c'est vraiment un indice de crédibilité aussi, de fréquentabilité de notre République. Mais moi, je me pose quand même une question par rapport à tout ce qu'il y a eu avant que nous ayons cette publication. Nous avons connu un débat houleux entre les écologistes et les économistes sur ces parcs, précisément en ce qui concerne l'exploitation du pétrole. Et je me pose maintenant la question, est-ce que cela n'est pas dans cette stratégie pour décourager ou carrément donner notre image de ces parcs pour permettre à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation? Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas soutenu l'approche économique qui voudrait à ce que nous exploitions ce pétrole et permettre à ce que nous ayons le moyen de notre politique. Elle a plus soutenu l'approche des écologistes et qui voudrait à ce que nous préservions le pétrole pour ne pas occasionner la dégradation de l'environnement, de l'écosystème. Mais il y a des éléments essentiels pour l'équilibre de l'écosystème. Ils ont préféré ne pas exploiter ces pétroles. Alors, si cela est le cas, quelle est l'attitude que doit afficher le gouvernement? Parce que nous savons tous que le tourisme est parmi les secteurs essentiels pour booster notre économie, comme vous l'avez dit. Mais si cela entre dans ces stratégies, et étant donné que nous avons encore d'autres préalables ou de conditionnalité pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à booster le secteur touristique, parce que nous savons qu'il y a un problème d'insécurité.
Le ministre l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, le problème de l'insécurité.
Mais parmi les facteurs les facteurs favorisant l'insécurité, il y a la pauvreté. Mais le tourisme, c'est vrai, ça va apporter beaucoup d'argent. Ça va permettre à ce que le Congo soit mieux vendu. C'est bon, mais nous savons tous que le tourisme, c'est un secteur qui demande, qui exige beaucoup de temps. Est-ce que pendant ces temps-ci, est-ce que nous serons en mesure, n'est-ce pas, de soutenir notre économie par les touristes, ou on doit envisager ou explorer la nécessité d'exploiter le pétrole? Voilà pourquoi moi j'ai demandé.
Merci beaucoup. Merci Alain d'avoir insisté et d'avoir évoqué un peu ces débats qu'il y a eu avant l'annonce d'ailleurs de cette publication des avancées réalisées dans le secteur. Il y a eu ce débat sur l'impact environnemental quand tu auras l'exploitation pétrolière au niveau du bloc 5 où se trouve d'ailleurs le parc Virunga qui est considéré aujourd'hui comme patrimoine mondial de l'éducation, donc pour l'UNESCO. Alors c'est le plus grand débat. Vous avez insisté pour dire est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une stratégie pour éviter ces appétits mascades et tous ceux-là qui préfèrent procéder à l'exploitation pétrolière dans ce bloc 5. Merci beaucoup Alain Bolojoie d'avoir appelé et d'avoir eu l'occasion d'ouvrir ce débat. Patrick Jiti de Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour Alain, et bonjour à l'ensemble des auditeurs en ligne aussi. Mais je voulais juste paraphraser M. Alain par rapport à ce qu'il avance ici sur la question de savoir si l'exploitation du secteur des touristes, c'est le seul secteur qui peut développer la RTC. Bon, moi je me demande si M. Alain, bon, il pouvait aussi penser d'une autre façon, de se demander est-ce que le secteur minier a répondu aux problèmes congolais comme il devait se faire. Et donc, le secteur touristique reste aussi un aspect pour diminuer pour les chômages en RDC. Si vous prenez la particularité donc, du Grand Kivu, nous avons intérêt donc à capitaliser ces ressources. Si on peut s'accorder que l'exploitation minière cause du fond justement en RDC. Et donc, je pense que le secteur touristique, et par rapport aux problèmes qui se passent à l'Est, on devrait y apporter un regard aussi.
Un regard
congolais. Un regard du congolais qui est de se demander les intérêts du pétrole. Ce n'est pas pour autant que ça peut bénéficier au Congolais.
Voilà, donc si je comprends bien, Patrick, pour vous, le regard congolais, c'est-à-dire vous demandez au gouvernement de pouvoir mettre des moyens conséquents pour relancer le secteur du tourisme qui est porteur quand même d'importance économique.
Et donc, oui, si on peut répondre à la question de savoir le problème des Congolais d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème, les moyens sont là. Je pense qu'on devrait encore faire mieux, on devrait encore organiser notre politique, recadrer les choses pour au moins voir comment diminuer les taux de chômage. Moi, je dis à vous.
Merci beaucoup, Patrick. On va rester dans l'est de la RDC pour prendre le regard de El Moussa, qui est un ancien garde de parc de Virunga, qui est aujourd'hui au centre des débats. Et pour les exploitants pétroliers qui, en fait, sollicitent l'exploitation dans cette partie où se trouve donc le parc de Virunga, dans le bloc 5, mais il y a un débat des environnementaux, des écologistes qui veulent protéger ces parcs qui est considéré aujourd'hui comme un patrimoine mondial de l'éducation et aussi des gens qui posent des problèmes de l'insécurité. El Moussa, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Elle, Mélissa ?
Voilà, on prend plutôt Confiance qui est à Kinshasa. Confiance, vous êtes avec nous, bonjour.
Alors, bonjour, Mbote, à tous les occasions de Radio de la Paix.
Voilà, Confiance, quel est votre avis ?
En fait, je suis content que qui nous donne encore l'occasion de discuter sur ce sujet, sur lequel nous avions déjà parlé la fois passée lorsqu'il s'agit du pétrole dans le sas. En fait, nous avons dans le monde des pays qui ont développé leur image grâce au tourisme. Je vais juste directement répondre à la question pour dire, pour capitaliser ce fait, moi j'aurais souhaité assez qu'on puisse surseoir à cette exploitation du pétrole dans le parc des Virunga que j'ai toujours défendu à cause des effets ou de l'impact environnemental. Mais j'aurais vraiment souhaité à ce que ce projet soit vraiment budgétisé. Le gouvernement parle facilement des choses lorsque son image est soignée, mais lui-même ne sait pas soigner cette image-là en rendant utile ce qui peut faire en sorte que le pays se développe. Nous avons connu certaines espèces, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le kivu, il n'y a pas ailleurs. Mais moi, j'aurais souhaité qu'ils se battent beaucoup plus sur le problème de sécurité, parce que c'est lui qui va faire en sorte que les gens viennent visiter notre pays. Mais j'aurais vraiment souhaité que le gouvernement investisse réellement dans le tourisme. Parce qu'il faudrait pas attendre les dividendes du tourisme si on n'y investit pas. Il faudrait vraiment qu'on y investisse. Et moi, j'aurais souhaité qu'on fasse aussi une évaluation, de voir qu'est-ce que nous gagnerions en exploitant le pétrole dans le parc et qu'est-ce que nous gagnerions dans le tourisme. Il y a un problème de durabilité du projet. Moi, j'aurais souhaité que ce développement-là soit durable. Je ne voudrais pas qu'on fasse le pétrole pour un développement rapide en détruisant la nature, mais j'aurais souhaité qu'on fasse réellement le développement durable qui peut faire en sorte que tant que l'écosystème vivra et le pays pourra toujours avoir des dividendes et se faire vendre mieux ailleurs. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose. Moi, je remercie d'abord le gouvernement, parce qu'il a quand même fait un effort dans le sens de l'image, de soigner l'image du pays. On ne parle pas trop actuellement de l'insécurité, et je pense que c'est l'un des éléments qui a combattu le tourisme dans le pays. Donc si déjà on peut combattre l'insécurité, on peut facilement développer le tourisme, c'est voilà. Parce que à aller dans le pétrole qui va détruire notre environnement.
Merci beaucoup, Confiance, d'avoir proposé quelques pistes de solutions pour pouvoir capitaliser ces avancées réalisées dans le secteur du tourisme aujourd'hui à la RDC, au travers des activités de parc des Virunga. Il est compté parmi les 20 meilleures destinations touristiques. Alors, monsieur le ministre, nous revenons à vous après avoir écouté les uns et les autres. Voilà, on va ramasser quand même dans l'ensemble la préoccupation des uns et des autres. Des gens qui ont soutenu quand même ces avancées et qui ont fait des propositions, et d'autres qui sont encore un peu sceptiques. Parce qu'aujourd'hui, avec le problème de l'impact environnemental, l'exploitation environnementale, il faut vraiment s'inscrire sur la durée, voir quelle est l'activité qui peut être profitable à la RDC. Est-ce le tourisme ou l'exploitation pétrolière au niveau du parc?
Merci beaucoup. Je remercie les intervenants qui ont des questions et des suggestions absolument pointues. Je vais répondre directement à ce qui concerne le pétrole, parce que c'est un débat qui est à l'ordre du jour. Le gouvernement, aujourd'hui, n'a pas encore tranché sur cette question. Et comme l'a dit si bien, je crois, Confiance, il y a une étude d'impact environnemental qui est en cours, mais aussi une étude pour voir effectivement du pétrole, du tourisme, qu'est-ce qu'il faut faire comme choix, quelle option il faut prendre. Donc j'invite tout le monde à observer un peu de calme, les choses sont en train de se faire, et le gouvernement ne va s'engager sur une voie ou sur une autre, sur une option, sur une autre, qu'en toute responsabilité, avec ceci comme objectif de travailler pour le bien de la population. Maintenant, je vais revenir peut-être à des observations d'Alain, que je remercie beaucoup. Je vais lui dire à lui et à Patrick, justement, le tourisme, c'est la première activité économique du monde, comme je le dis. Je dirais à Patrick, je dirais à Alain, que le tourisme, c'est le seul secteur qui fait la croissance économique la plus rapide et qui crée des emplois le plus rapidement. Parce que sur 11 touristes que vous avez, on crée un emploi. Et c'est un emploi durable et c'est un emploi rémunéré. Il faut savoir donc toute la capacité du secteur à créer la croissance. Deuxièmement, il faut savoir que le gouvernement est très conscient du fait que l'insécurité est créée principalement par l'oisiveté, par la pauvreté. C'est pourquoi le gouvernement le prend sur deux fronts. Le premier front, c'est que les recettes du tourisme dans le parc de Virunga actuellement, 30% sont consacrées au projet de développement des populations riveraines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Premier ministre vient de signer un décret créant le corps pour la protection des parcs nationaux. Pas seulement du Virunga, mais la Garamba, nous avons un braconnage d'un type absolument particulier, un braconnage très très violent où on utilise les hélicoptères, les armes de guerre, et donc nous ne faisons plus, n'est-ce pas, face à l'insécurité ordinaire du braconneur où un éco-garde peut faire face à l'ennemi ou à l'assaillant. Et donc le corps qui va être créé, qui vient d'être créé, pardon, par décret du Premier ministre, ça sera ça sera des paramilitaires qui seront formés pour faire face à ce type d'insécurité. Deuxièmement, en ce qui concerne effectivement la lutte contre la pauvreté, surtout la lutte contre le chômage des jeunes, nous avons inauguré il y a 6 mois, nous avons posé la première pierre d'un incubateur d'entreprise. C'est-à-dire, il faut absolument que les jeunes apprennent à créer des entreprises. Et tout autour, et en plein parc, il y a une centrale hydroélectrique de 13 mégas qui va générer absolument d'énergie qui peuvent favoriser la création d'entreprises à l'intérieur et autour du parc.
Il y a tous ces efforts, le risque pas de tomber lorsque le gouvernement aurait l'option, par exemple, de l'exploitation pétrolière.
Mais nous sommes, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mmh. J'ai dit qu'il y a une enquête.
L'impact environnemental.
Il faut faire confiance au gouvernement. Mmh. Il ne pourra faire que le bon choix.
Alors, j'aimerais bien qu'on retourne. Il y a encore quelques préoccupations qui sont restées pendantes, mais il est temps de vous lire un peu rapidement avec les auditeurs qui nous ont rejoint. Il y a El Mouissa, qui est un ancien garde de parc de Virunga, qui est à Béni. El Mouissa, bonjour.
Bonjour, Radio Café.
Voilà, vous êtes un ancien garde de parc de Virunga. Et d'abord, si vous pouvez peut-être nous faire une historique de ces parcs et nous dire exactement quels sont les problèmes que vous avez rencontrés en tant qu'ancien garde de parc aujourd'hui, mis à part le problème d'insécurité qui revient souvent dans le dernier débat, mais aussi en fait l'activité touristique elle-même. Vous pouvez dire quelque chose, El Mouissa?
Oui, je vais d'abord parler de l'historique. En raison de sa valeur et une recette exceptionnelle, le parc national de Virunga a été fait depuis 1970 sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais je veux dire que plus qu'une chance et qu'une évidence, j'ai été dans des parcs et j'ai dit à tout le monde que c'est génial de se regarder la nature. Et je voulais dire comme j'en suis fier, j'ai été fier d'avoir servi mon pays dans le cadre des gardes des parcs et dans les nationales, dans les Virunga National Park. Pour que l'on aille, quoi qu'on nous dise, des fêtes où nos batailles pour la sauvegarde de la nature, jamais personne ne détruira la noble contribution des gardes-parcs sur tous ceux qui viront dans ce qui vaut, jusqu'au sacrifice de leur vie pour sauvegarder la nature. Je ne dis pas que les gardes doivent avoir beaucoup d'argent pour sauvegarder la nature, mais ils doivent être bien traités, quoi. Quand je dis bien traités, c'est par rapport à leur mission principale. La mission principale des gardes, c'est la patrouille dans les parcs et la sentinelle dans des postes de patrouille. Mais quelque chose qui m'a choqué, c'est que dans des postes de patrouille où il faut affecter 6 personnes. Vous verrez, dans l'administration, on va envoyer seulement 2 personnes.
Mais
comment ces personnes vont effectuer la patrouille dans la zone qui est déjà vaste et en même temps assurer la sentinelle de leur poste de patrouille? C'est quelque chose que je n'ai pas aimé dans la manière de gestion du parc national de Virunga. Je félicite aussi la franchise de son excellence, monsieur le ministre, car il a indiqué que le budget du pays n'est pas à même de réhabiliter tous les sites touristiques et que pour cela,
il faut recourir au partenariat public-privé.
Parce que ce qui se fait d'ailleurs au Virunga, c'est déplorable, c'est là où ça s'effectue, le partenariat public-privé, on n'est pas à même de voir où va cet argent. C'est ce qui est vrai, c'est que le secteur touristique dans le Virunga qui fait rentrer beaucoup d'argent, c'est la visite aux gorilles dans les secteurs Mikenou. Dans les secteurs nord, il y a les monts Rwenzori qui n'attirent pas beaucoup de touristes. Je ne sais pas pourquoi, mais du côté de l'Ouganda, les monts Rwenzori fait rentrer beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas. Ça ne devait pas entretenir les sites touristiques du Mont Rwenzori à quoi ça parle le secteur nord du parc national de Virunga.
Merci beaucoup, Elmonica, d'avoir accepté donc de nous faire ce témoignage dans cette émission Parole aux auditeurs. On vous accorde la parole, chers auditeurs, vous qui le suivez à l'étranger, www.radiocapi.net et vous tous qui êtes à travers le pays, branchés sur la fréquence de la paix. Nous saluons la présence, donc l'arrivée dans ce studio ou encore en ligne de Jires de Mandouville. Jires, vous êtes avec nous, bonjour Jires.
Bonjour JR, merci beaucoup pour la parole, l'intérêt que vous portez au secteur du tourisme.
Alors, comment on peut parler de la capitale
à la sécurité.
Oui.
On ne peut pas parler du tourisme sans parler de la sécurité, les deux choses vont de pair. Nous savons que le pays vient de très loin et que les autorités en place ont fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer tout un ensemble de conditions sécuritaires dans le pays. Mais du moins, nous devons savoir qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, parce que personne ne voudra mettre sa vie en danger sous prétexte de ce qu'il veut faire le tourisme, pendant que les conditions ne lui restent aucune sécurité. Voilà une opportunité pour nous de pouvoir interpeller les autorités ou les pouvoirs en place pour faire quelque chose, afin qu'une attention plus coordinée soit portée dans ce secteur, afin que ce secteur, qui est un secteur qui peut être un secteur florissant, puisse faire quelque chose pour le Congo. Alors, nous avons voulu aussi poser quelques questions à l'invité qui est sur le plateau. Je ne sais pas que le bilan peut-il dresser du tourisme au Congo, et si par voie des statistiques, par rapport au tourisme dans le pays. Voilà un peu à quel niveau c'est ce monde.
Merci, merci beaucoup, Jires. Le problème du bilan, c'est vrai, nous avons prévu donc d'en parler à la fin de cette émission. Merci de nous avoir déjà proposé cette question directe avant même la fin de cette émission. Alors, Maître Adrien, vous avez rejoint, vous êtes à Kananga. Bonjour, Maître Adrien, et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, Jérôme Lungembo, bonjour à monsieur l'invité, et bonjour à tous les amis auditeurs.
Vous avez la parole, quel est votre avis? Après avoir écouté les uns les autres, donc il y en a qui évoquent quelques défis à relever, et également le préalable pour arriver aujourd'hui à rendre le secteur de tourisme très attrayant et aussi bénéfique pour le pays.
Oui, merci, Jérôme Lungembo, c'est la parole que vous m'accordez. Je pense que c'est d'abord...
Voilà, nous n'avons plus Maître Adrien en ligne. Je crois que la réalisation va nous aider à récupérer Maître Adrien qui avait encore la parole. 081-890-6315, pour votre intervention en direct.
Au pays des Léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe du sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Elvis Moukiri Ouabachara, ministre du Tourisme. Nous venons de suivre cette deuxième série des auditeurs. Qu'en pensez-vous?
D'abord, je vais revenir sur la question de Patrick, qui parle du tourisme qui peut effectivement contribuer à la croissance économique dans notre pays. Je disais donc que le tourisme fait la croissance la plus rapide. Le tourisme au niveau mondial, c'est le 15% du PIB. Au niveau mondial, c'est 200 millions d'emplois dans le secteur du tourisme, et Patrick a complètement raison. L'objectif du gouvernement, c'est la diversification de l'économie. Il a raison, il y a les mines, effectivement, il y a d'autres secteurs, mais il faut aller aussi en direction du tourisme, il faut aller en direction de l'agriculture. Et notre pays, à ce moment-là, va accélérer son pas vers l'émergence en 2030. Et El Mouissa, je suis très fier de cet homme qui vient de parler.
C'est gardé par
Etty. Aujourd'hui, il faut le dire. Si aujourd'hui, Virunga est considéré comme la 19e destination touristique du monde, c'est principalement grâce à ces éco-gardes. Ce qui est extraordinaire, il faut aller les voir hier, ce sont des gens d'abord qui ont la passion de ce qu'ils font, de la protection de la nature. Il faut les voir comment, jour et nuit, et il pleut énormément, il fait très froid dans ces contrées-là, et ces gens sont toujours là pour protéger la nature, pour assurer la sécurité dans les parcs. Et plusieurs ont donné de leur vie pour ça. C'est pourquoi, pour cette destination, 19e destination touristique du monde, le gouvernement m'a chargé de préparer une journée d'hommage qu'on va aller faire à demain pour effectivement rendre hommage à ces découvertes. Et je dirais à El Moussa qui s'inquiète effectivement de manque d'effectifs, que depuis la semaine passée, on a déclenché un programme de recrutement de 500 éco-gardes, de manière justement à répondre à ces besoins, qui est un besoin de sécurité. Et là, je veux rebondir sur ce que Jérès dit, la sécurité est un défi mondial pour le tourisme aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, nous sommes très fiers que jusqu'à ces jours, les choses se sont passées sans incident, et d'ailleurs, le journal New York Times le reconnaît, il reconnaît que c'est vraiment un défi énorme pour la RDC, et arriver effectivement à assurer la sécurité des touristes telle qu'on le fait aujourd'hui, je crois qu'il faut féliciter les éco-gardes, il faut féliciter les responsables de l'ICCN. Et peut-être j'ai oublié quelque chose au niveau de ce que El Moïse vient de dire. Elle dit qu'il y a des recettes, on ne voit pas où ils vont. Non, les 30% des recettes du tourisme.
Donc, il n'y aura pas de parcs de
Voilà. L'impact est que il y a des routes qui sont réhabilitées, il y a des écoles qui sont construites, il y a des centres de santé qui sont construits. Pour l'année 2016, il y a un programme qui va se faire, et les 30% qui sont consacrés au développement de projets du tourisme, le gouvernement y veille, et c'est notre bras séculier, et bien sûr l'ICCN qui est pour le gouvernement.
Le Nord-Ouest.
Alors, en ce qui concerne le Nord-Ouest, le Mont-Oyo est une préoccupation pour nous, qui est maintenant dans le programme du deuxième semestre de cette année. On ne peut pas tout faire à la fois, et Moïse, je crois qu'il le sait très bien. Il sait très bien. Il faut avancer. Il sait très bien qu'il y a eu des incidents quelques fois sur cette route là. Maintenant, la situation est telle que nous pouvons réhabiliter cette partie, et c'est d'autant plus de la charge du ministère du tourisme que ces sites appartiennent, l'hôtel appartient au ministère du tourisme. Donc nous avons dans les actions qui vont venir la préoccupation de réhabiliter ces sites et d'essayer d'interconnecter ce site au site de Virunga et de manière à rétablir effectivement des activités sécurisées, des activités touristiques.
Oui, alors il y a eu confiance qui a fait parler d'ailleurs au début de cette émission, qui a dit ben, c'est vrai quand il y a des très bonnes nouvelles, on sent que le gouvernement est très fier et il en parle facilement. Mais la suite pour capitaliser, c'est là où le problème se pose. Est-ce que, au niveau du ministère du Tourisme, vous avez pensé déjà à des stratégies pour que finalement ces acquis ne puissent pas passer outre?
Bon, la confiance, il est non prédestiné. Je lui demande de faire confiance. Il est non qui incite à ce qu'on lui demande de faire confiance au gouvernement, qui effectivement a un plan. Non seulement de réhabilitation, mais un plan de marketing. Parce que ce qui est très important, c'est de vendre l'image. C'est l'image qui précède le tourisme. Bon, et après, ça devient une interaction hein, image-tourisme, image-tourisme. Mais il faut commencer par améliorer l'image. Et il serait tout à fait malheureux, quand il y a des mauvaises nouvelles qu'on en parle, et il serait malheureux, qu'on ne parle pas des bonnes nouvelles.
Alors, vous passez pour parler de l'image, c'est vrai, je crois que sous réserve des experts ou encore d'autres spécialistes, par deux fois, nous avons loupé l'organisation de compétitions internationales de football, entre autres raisons avancées, c'est-à-dire nous n'avons pas un cadre touristique qui pouvait, en fait, accueillir un nombre important. Mais au nombre des hôtels ou encore des places qui laissent comme des champignons en République démocratique du Congo, les gens se posent la question, est-ce que tous ces sites répondent aux normes? Est-ce que le ministère du Tourisme est un peu regardant? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? Quelle est l'offre touristique qu'on donne? C'est vrai, aucun dit que ça tombe d'ailleurs à pic parce que les débats au niveau du Parlement, la loi sur la normalisation, je crois que ça pourrait quand même être un coup de pouce ou encore une valeur ajoutée dans la démarche, dans la stratégie montée par le ministère du Tourisme.
Je crois que dans mon introduction, je l'ai dit, pour qu'une destination touristique soit compétitive, il faut absolument que tout autour, les services soient de qualité. Et je l'ai dit, les services, c'est d'abord l'hébergement, c'est la restauration, et c'est la capacité de chaque établissement à organiser les loisirs. Nous y travaillons. Nous avons commencé par, je n'ai pas été dans les détails, quand on parle d'un dispositif ou bien des textes réglementaires qu'il faut changer, le ministère a signé un net arrêté qui vont dans le sens de l'amélioration des normes en ce qui concerne l'homologation des hôtels, en ce qui concerne la classification des restaurants. Bien sûr, la capacité d'hébergement par rapport à l'offre touristique que nous avons, par exemple sur Kinshasa,
il y a des milliers d'hôtels, l'offre, mais quelle qualité?
Il y a beaucoup d'hôtels, mais qui n'ont pas la capacité, qui ne répondent pas
la viabilité
aux normes, qui ne répondent pas aux normes. Il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont pas de parking, par exemple, qui ne peuvent pas avoir une piscine, qui n'ont pas de salle de sport.
Ça, ce sont des éléments. Commodités à l'interne.
Ce sont des éléments importants qui permettent effectivement à un certain moment de vendre votre destination d'une façon compétitive. Mais ce travail est en train de se faire et il faut le faire toujours avec les privés, avec les opérateurs privés du secteur. L'État ne peut pas construire des hôtels, ce n'est pas possible. Mais l'État fixe les normes. Et les normes, nous les avons fixées. Il y a de plus en plus, aujourd'hui, des investisseurs dans les domaines, dans le secteur du tourisme, disons dans l'hôtellerie, dans la restauration et notre ami, il peut.
Est-ce que le partenariat public-privé marche vraiment dans les secteurs? Parce que si nous prenons le cas de Daipen aujourd'hui, c'est vrai, il y a une partie qui, ma mémoire est très bonne, qui a été cédée à des privés aussi au niveau de CELE. Mais on se rend compte que ça.
C'est un peu difficile. Je connais très mal ce dossier de l'agriculture. J'ai déjà énormément à faire dans mon secteur. Mais bon, je ne connais pas, je ne sais pas très bien, je sais d'une façon générale comment ça fonctionne. Mais en ce qui concerne le domaine du tourisme jusqu'à présent, ce sont des partenariats qui tiennent. Mais nous n'avons pas non plus énormément de partenariats, nous n'avons pas de partenariats sur des questions très complexes. Très complexes.
Alors, on va prendre Dr. Richard, Olivier et confrère du journal Observateur qui a réagi à ce débat, qui était très pertinent selon lui. Alors, Dr. Richard, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour, docteur, et bienvenue.
Oui, bonjour aussi, bonjour à l'invité. Alors, oui, moi je dis merci à ceux qui nous passent et nous placent à la position qu'on a publiée là. Et puis, je dis aussi merci aux Belges qui ont eu à créer en 1925 ce parc. Et puis, nous encourageons tous ceux qui font des efforts pour que ce parc soit maintenu. Alors, voici ma modeste contribution. Ce matin, nous avons appris qu'il y a une espèce de gros singe qui sont en train d'être massacrés. Ça, c'est un. Deux, j'ai beaucoup aimé le discours de M. le ministre sur la route des esclaves. Vous savez que Siafoumou et d'autres points de Mwanda étaient le lieu d'embarquement et de débarquement des esclaves. Il faudrait mettre ça aussi dans le contexte de la route que les Congolais de Brazzaville sont en train de réhabiliter avec le port de Luango ou de Chilongo, là où on embarquait les esclaves pour les amener là où ils sont partis. Alors, ce que je voudrais insister, c'est quoi? Je voudrais insister sur la création de muséums locaux. C'est comme à Mwanda. Là, on parle du peuple Oyo. Ce n'est pas un peuple Mukongo. Pourquoi je dis ça? Dans la langue Oyo, il y a les Kisuku, il y a les Kinyaka, il y a les Kitoko, les Luba là-dedans. Parce que lorsque un Moyo dit Tchatakini, le Luba comprend. Lorsque il chante la gloire de Kwango en simulant la rivière Nzende, ou le fleuve Nzende plutôt, c'est un fleuve parce qu'il se jette directement sur l'océan, ils disent Kwango, vous comprenez que c'est un peuple qui est resté amnésique, il ne sait plus là où il est, mais c'est un peuple qui vient de Kwango. Donc j'ai beaucoup aimé ça, mais il faut que localement, on crée de musées, de rétention du savoir qu'on est en train de ressusciter maintenant. On est en train de ressusciter beaucoup de choses, et sur le plan tourisme culturel, il faut qu'on renforce ça. Et je termine par dire que les parcs ne servent pas seulement à les visiter, se reposer, etc., mais il y a aussi de la recherche. Aujourd'hui, il y a une pharmacopée très avancée sur les gros singes qui est aussi une pharmacopée appliquée sur les hommes dans la lutte contre les maladies, en contre le cancer. Merci beaucoup.
Je vous remercie, Dr. Richard. On va prendre Olivier qui est à qui plus. Olivier, bonjour.
Et bonjour, JL. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, Olivier.
Oui, voilà. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec le ministre quand il dit que le tourisme peut permettre une croissance économique rapide, très rapide même. Et je crois que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'exemples. L'Éthiopie, c'est un exemple vivant. C'est un pays qui ne vit que du tourisme. Alors, chez nous, il y a un problème, c'est que on ne voit pas très très bien la part du tourisme dans les finances publiques. Les raisons sont multiples, c'est vrai, il y a eu des guerriers à étudier cela. Alors, mais nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Alors, je vais dire ceci, je prends des exemples. Le ministre dit qu'on a de faire des efforts. C'est vrai. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont contradictoires. La sécurité dans le parc de Grouma notamment, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement plus. Les efforts sont d'être menés au plan national, c'est vrai, mais il n'y a pas encore de sécurité. La preuve, c'est que toutes les semaines, on nous parle de braquages sur les routes. Les routes qui réclament au parc de Virunga. Le Virunga, vous passez par le Kanabanga pour aller à Butembo, c'est une route qui n'est plus sécurisée. Je ne vois pas tellement aujourd'hui qu'on puisse déclarer que vraiment et tout va bien.
Je crois que vous avez suivi, peut-être que vous avez pris en cours, ou je ne sais pas, mais nous avons dit qu'il y a un pas franchi, un pas qu'on a fait. Et comment faire maintenant pour aller encore plus loin? C'est-à-dire aujourd'hui, nous occupons la 19e place. Pourquoi ne pas aller vers la 5e, la 2e, la 4e? C'est pourquoi nous avons ces débats. On dit quels sont les préalables pour relever ces défis qui restent à faire. Okay. Vous avez parlé un problème de l'insécurité.
Oui, c'est très cher. C'est super cher. Donc, le moyen d'aller jusqu'à la première place, ça demande beaucoup sérieux d'abord. Ça demande qu'on soit très sérieux. Et moi, je n'approuve pas le système de stress social qui veut que l'ICSN commence à construire des écoles. Ça, c'est pour moi une bonne façon de nous tripler. J'aimerais que l'argent des parcs entre dans les finances publiques et des parcs tellement mal et qu'il y ait des programmes de développement qui soient définis par les gouvernements. Mais si on commence à utiliser l'argent directement pour construire les écoles, pour arranger les routes, moi je crois que le ministre va d'accord avec moi que ce n'est pas de cette façon-là que nous pouvons faire entrer, nous pouvons aider le pays. Donc, le tourisme peut aider les finances publiques si nous le faisons vraiment avec bonne foi. Mais c'est vraiment un secteur que nous devons développer, et ça c'est une série du gouvernement qui fera que ce secteur soit développé. L'insécurité, c'est vrai, elle est là, mais quand nous disons différentes places, moi je crois que nous ne devons pas trop faire confiance. C'est un des organes de presse les plus modernes du monde. Mais c'est comme le prêtre qui nous dit, c'est l'émergence à mi-temps 2030. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, il n'y aura pas d'émergence. Et si nous-mêmes, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, la position qu'il nous donne, le New York Times, c'est pour moi, c'est une position technique. C'est théorique. Donc voilà.
Merci beaucoup. Position théorique, avec risque de la perdre si nous ne mettons pas de sérieux ou encore nous ne mettons pas au travail. Voilà, on va voir un des confrères qui nous a rejoint. Il est du journal L'Observateur, à Kinshasa. Bonjour, confrère.
Bonjour, Pierrot. Bonjour, excellence, monsieur le ministre. Je suis monsieur Luc Roger Mbala. Je suis le directeur de rédaction du journal L'Observateur. Oui. Je salue d'abord les efforts déployé par le ministre pour faire valoir, pour redorer l'image de marque du tourisme congolais qui a quand même été éclaboussé par la série des conflits. Je crois que le ministre l'a dit, le tourisme c'est le plus grand gisement d'emploi au 21e siècle. On a parlé du tourisme éducationnel, l'écotourisme, le tourisme culturel, mais je voudrais que le ministre focalise un peu l'attention aussi sur le tourisme médical, parce que dernièrement, nous avons été dans l'est du pays, on a vu beaucoup de sources d'eau chaude, des sources d'eau thermale, qui peut également constituer un atout pour les gens qui sont en quête de traitement. On peut également valoriser ces sources d'eau pour qu'on développe le tourisme médical. Les gens peuvent venir se soigner. Parce que ces eaux ont des vertus curatives impressionnantes. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est concernant le partenariat public-privé, le ministre l'a parlé tout à l'heure. Je voudrais demander au ministre pourquoi son ministère n'associe-t-il pas beaucoup les médias dans la promotion et la vulgarisation du tourisme. Parce que il fait beaucoup de descentes sur le terrain, c'est vrai, parfois la presse nationale est là, mais si on prenait un maximum de journalistes, par exemple au niveau de la radio Capi, au niveau de la presse écrite, et au niveau de notre chaîne, je crois que c'est également un partenariat intéressant. Le ministre est lui-même un journaliste de profession, il fait lui-même la force des médias. Les journaux en ligne, il y a beaucoup de journaux en ligne qui sont en ligne, ils peuvent véhiculer le message sur la promotion du tourisme. Je donne un exemple. Tout dernièrement, nous avons dans notre site, quelqu'un avait parlé des chutes Guillaume, c'est dans le temps de nous. Et on appelle ça aujourd'hui Chute Kasumalunda. Et cette information a été mise sur le site, et on a vu quelques temps après des touristes allemands venir au Congo pour aller voir cette chute-là. Donc ils ont découvert l'information dans le site d'un journal, et ils ont cherché de l'information pour voir comment ils pouvaient accéder dans cette zone qui est la province du Bandundu. Alors je termine, et moi je ne veux pas être très long, je vais terminer par quelques questions à poser à M. le ministre. Cette année, le parc national de Virunga va célébrer son 91e anniversaire, parce que ça a été créé le 25 avril 1925 sur décret royal. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues, parce que c'est quand même un événement important, c'est un parking du temps vers le centenaire. Et la deuxième question, comment au niveau du ministère, quelles sont les relations, au niveau du ministère, on gère le fonds de promotion touristique, parce qu'on a comme l'impression que ce fonds a toujours été l'objet de discorde entre le ministère du tourisme et l'Office social du tourisme. Je vous remercie.
Merci beaucoup, confrère. Alors, on va prendre Madame Brigitte, mais Madame Brigitte, on vous demanderait de garder la ligne. Hein. Madame Brigitte, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, je vous demanderai de garder la ligne, le temps pour nous de proposer à tous ceux-là qui viennent à peine de nous rejoindre le place d'information, et puis on reviendra pour poursuivre et conclure avec notre invité, mais on lit quand même quelques messages qui nous ont été envoyés par les internautes. Jean-Cy Ilunga, à Kananga, notre pays, l'RDC, est un grand pays où nous avons presque toutes les espèces d'animaux. Pour y parvenir, que le gouvernement mette en place une sécurité dans toutes les province, car vous venez de parler des guerres et rébellions à l'est du pays. Ce sont les causes principales de la chute du parc. Delphin Ouakouboula, Chikaï depuis la ville de Kananga, toujours. En effet, le secteur du tourisme en RDC est très capital et peut constituer donc l'ampleur de ces grands pays. Mais il y a belle lurette que ce secteur est en baisse. Pour le moment, la meilleure façon pour relever la pente dans ce secteur, c'est de mettre fin à la guerre et réhabiliter certains sites qui sont dans un état de délabrement avancé dans d'autres parties du pays. Patrick Girti, qui intervenait tout à l'heure d'ailleurs en direct, a dit ceci dans son message. En général, disons, les Kivu est un lieu touristique du nord au sud, relié par les lacs Kivu, entouré d'un grand massif de chaînes volcaniques et de parcs, donc celui des Kahuzi-Biega, jusque dans le plein du Virunga, au-delà du volcan Irangogo, Karishindi et Mikeno, qui ne sont que des mystères à visiter et apprécier dans l'ensemble des beaux paysages du lac, doré des belles îles d'Iju. Nous devons repenser de nouvelles politiques économiques en République démocratique du Congo si celles basées sur les ressources minières font un défaut. Voilà, une fois encore, mesdames et messieurs, nous vous invitons à participer à ces débats en composant, bien entendu, les 0481-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Notez, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, que nous parlons de cette bonne position de la RDC comme meilleure destination touristique. Vous êtes sans ignorer que le journal américain New York Times a classé le parc des Virunga, situé dans l'est de la RDC, 19e sur la liste des 52 meilleures destinations touristiques au monde en 2016. Certains observateurs estiment que le Congo, qui n'était plus une destination touristique de renom à cause des différentes guerres et rébellions, devrait capitaliser ses acquis positifs pour développer le secteur du tourisme en RDC. Comment y parvenir, selon vous, Madame Brigitte, vous êtes à Kinshasa, Didier à Kalemie et Joséphine à Boston, aux États-Unis. Madame Brigitte, bonjour.
Bonjour, hier.
Vous avez la parole.
Oui, hier, j'aimerais remercier le ministre Moussiri pour son intervention sur la radio Kapi et vous dire que je soutiens totalement son idée d'organiser, d'exploiter les partenariats public-privés pour relancer les secteurs du tourisme en République démocratique du Congo. Et mon idée par rapport à ça, c'est quoi? Vous savez que le ministre sait très bien que les investisseurs, c'est des natures, des personnes qui sont très prudentes. Et donc, il faut vraiment les motiver à s'engager dans la promotion de ces secteurs. Et moi, je proposerais quoi? Que le gouvernement congolais organise, par exemple, un forum international sur le tourisme en RDC, où le gouvernement va présenter toutes les opportunités aux investisseurs étrangers et congolais, toutes les opportunités qui s'offrent, que le pays offre dans les secteurs du tourisme, et présenter aussi les sous-secteurs du tourisme qui existent chez nous, présenter les besoins, présenter les points forts, les points faibles, et permettre ainsi à chacun de voir où s'engager. Et puis autre chose, j'ai suivi mon prédécesseur qui a dit quelque chose de très important, le ministre est un journaliste. Donc moi je me dis, je voulais lui poser la question. Est-ce que le ministère du Tourisme dispose d'un site web où
il a localisé les infos.
Différents chefs de la RDC, c'est très important pour que les gens s'engagent, pour que les gens viennent. Il faut qu'ils voient ce qui existe, qu'est-ce que le gouvernement congolais présente à ses investisseurs pour les attirer. Voilà mon intervention.
Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes l'activiste dans les secteurs. Hein. Je crois que voilà. Alors donc, je crois que le ministre souhaite d'abord d'ailleurs avoir vos contacts. Peut-être que vous avez des idées à partager avec lui.
Oui, il n'y a pas de problème.
Voilà, donc le numéro que nous avons, on peut le transmettre, c'est là.
Je vous en prie.
Merci, madame Brigitte, d'avoir appelé de Kinshasa et d'avoir proposé à ce qui concerne le partenariat privé comme Mamoud qui pourrait sauver quand même les secteurs aujourd'hui. Et vous avez insisté sur les investisseurs qui sont un peu très prudents, surtout quand la promotion n'est pas bien faite par celui qui vend son image. Ça risque également d'avoir un effet contraire. Voilà, donc organiser un forum, c'est ce que vous avez proposé international sur les touristes, pour en fait montrer en face du monde l'offre touristique que nous avons. Merci beaucoup, madame Brigitte, d'avoir appelé les Kinshasa. Didier, vous êtes à Calémi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, j'aimerais apporter une petite contribution par rapport à un compatriote qui a parlé à partir du Bas-Congo sur la route des esclaves. J'aimerais aussi rappeler au ministre si dans son ministère il y a une politique de recherche des sites touristiques, parce que je me rends compte que les esclaves qui ont été amenés passant par la Tanzanie, si je me rappelle bien, surtout nos frères du Manima, sont passés par Calémi à travers, s'il y a une île ici à Calémi, sur le Tanganyika qu'on appelle Bilia, c'est la plus grande île que nous avons sur place. Or, à côté de cette île, il y a même des tombeaux, des esclaves à l'époque. Parce que tous ces gens-là qu'on a menés du Maniema et de partout, à chaque fois qu'ils venaient et qu'ils voyaient le lac Tanganyika, pour eux, c'était un scandale parce que chez eux, n'ayant ni aucune rivière à la grandeur du lac Tanganyika. Alors, maintenant, j'aimerais poser un peu la question à votre invité, donc notre ministre. Est-ce que dans sa politique, ils ont une équipe pour identifier les sites touristiques vraiment au Congo? Et est-il possible de nous créer ce genre de route où passer nos aïeux pour se faire transporter vers là où ils sont aujourd'hui? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Didier, d'avoir appelé les Calémies. On va prendre le dernier. En tout cas, je crois que Madame Joséphine, qui nous appelle de Boston, aux États-Unis. Madame Joséphine, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci, je vais remercier tout le monde qui a appelé, je vais remercier le ministre. C'est comme les autres ont dit, hein, vous savez, le parc de Virunga, je suis devant mon ordinateur, quand je mets parc de Virunga, il n'y a rien. Il y a une paillote qui sort, hein, pour vous montrer que ça c'est le parc de Virunga, mais dans le
fond, le contenu,
on peut voir où est le parc de Virunga, on peut voir la beauté. Mais ce que je vais dire, la semaine passée, on a parlé le problème de communication, le problème de la fibre optique. Hein? Le tourisme, ça va de pair avec la communication. Et dans la communication, nous voyons la communication de l'Internet maintenant, la communication par le flyer des journaux, les journaux, et puis on voit la communication par le route. Qu'est-ce que le ministre a fait pour communiquer, pour faire la publicité de tous les parcs, autour des sites touristiques du Congo? C'est comme la dame qui vient de dire, on ne fait pas la publicité, personne ne connaît. Vous savez, nous ici, même au Congo, maintenant là, les gens sont en vacances. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des emails, on envoie les flyers, on envoie les papiers pour vous dire qu'à tel endroit, c'est comme ça, vous voyez des photos et tout et tout. Je vais rentrer pour vous parler des problèmes de communication avec le fibre optique, les fibres optiques. le monsieur le ministre, il faut communiquer avec le ministre.
Alors, on a discuté avec la ligne de Mme Joséphine qui nous a appelé des Boston. Alors, on dit à vous, monsieur Elvis Moussouli ou Abachara, ministre du Tourisme, il y a eu beaucoup de préoccupations et également des auditeurs qui ont contribué. Hein. Il y a même un confrère qui a évoqué d'ailleurs que cette année, on va célébrer le 91e anniversaire, je crois, des parcs de Virunga, notamment. Alors, c'est vrai, c'est l'heure aussi de réfléchir, c'est le moment de réfléchir aussi sur les normes à éditer pour arriver à soigner quand même notre image, notamment la communication, comme l'ont évoqué certains auditeurs. Alors, quelle est votre réaction?
Très bien.
Vous avez 3 minutes pour conclure.
Très bien. Merci beaucoup. Je vais Richard et Didier, ils ont posé le même problème. Je vais dire à Richard que en ce qui concerne la route de l'esclave de l'océan Atlantique, il sera, je crois, très très heureux le mois prochain, parce que nous allons présenter les conclusions d'une équipe d'archéologues congolais et belges qui ont sillonné tout ce coin à partir de Mwanda, l'île de Matéba, Siankumu, et ils ont fait des découvertes archéologiques extrêmement intéressantes. Et ils seront présentés très officiellement. Et alors, nous avons commencé par la route de l'Ouest. Nous irons vers la route de l'Est. Je ne sais pas si Didier nous a pris en cours d'émission, mais j'ai parlé de cette route de l'Est qu'il faut aussi réhabiliter. Donc, c'est dans un programme qui est un programme à court terme, mais c'est à chaque étape, il y a une réalisation. Olivier, il a raison. L'Éthiopie, c'est la première destination touristique d'Afrique. Son tourisme est fondé sur le tourisme culturel. Nous avons la variété, comme on l'a vu, le tourisme scolaire est plutôt culturel, mais aussi nous pouvons aller vers le tourisme d'aventure et d'autres. Bien sûr, il le recommande, Olivier, la mobilisation de toutes les énergies gouvernementales et privées, et nous sommes d'accord avec lui. Bien sûr, Luc Roger, il m'a pris des cours sur beaucoup de choses. D'abord, je confirme que, effectivement, le partenariat avec la presse, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Et ce n'est pas assez, parce que vous savez qu'il y a aussi des ressources financières qu'il faut mobiliser pour ce genre de partenariat avec la presse au niveau national et au niveau international. Et je le félicite d'être très très vigilant en parlant de l'anniversaire de Parc de Virunga, effectivement c'est le 21 avril. Et là, il m'arrache un peu un scoop parce qu'effectivement, le 22, je l'ai dit, nous allons à ce moment-là rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à faire de la destination République démocratique du Congo une de nouvelles destinations du monde. Et donc, je suis d'accord avec lui qu'il faut, à ce moment-là, faire quelque chose. Alors, Brigitte et Joséphine, si j'ai demandé le numéro de téléphone de Brigitte, et je demanderai autant pour Joséphine, c'est pour leur envoyer les adresses des sites web du ministère du Tourisme. Il y a des sites web. Je lui donnerai aussi l'adresse de Facebook et de Twitter. Et donc, je lui donnerai aussi à Joséphine, qui apparemment est sur un mauvais site, un site absolument fourni du parc de Virunga. Donc, le problème de communication est une préoccupation. Vous ne pouvez pas vendre l'image d'un pays sans que vous ne puissiez communiquer à l'extérieur. Voilà, je crois que... alors, il y a quelqu'un qui a demandé le bilan. Bien sûr, les...
En une phrase, il y a assez de temps.
17 à 20 000 touristes, c'est très peu pour la République démocratique du Congo. Il faut absolument qu'on arrive à 100 000 dans 2 ans et arriver à plus d'ici 2020.
Elvis Moutiri Ouabachara, ministre du Tourisme, merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, merci d'avoir fait le déplacement de ce studio pour réfléchir, analyser et aussi débattre d'une manière citoyenne avec les auditeurs.
C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi à tous les intervenants qui ont été d'un apport extrêmement important pour moi.
Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On vous retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bon sur des programmes sur Okapi.